Les contes du soir. Pleine lune d'été, la dernière, avant le couloir de l'automne, pour raconter une grande première, celle du 21 juillet 1969, où l'homme posa pour la première fois un pied sur la lune. Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins, voilà le trio qui va nous emmener loin, très loin, jusqu'à la surface du bel astre blanc. Ils étaient trois astronautes partis pour le plus fabuleux des voyages. Ils allaient conquérir la Lune. Depuis des mois, des années, des siècles, les hommes attendaient ce moment. Ce qui leur avait semblé n'être qu'un rêve se réalisait tout à coup. Après le lancement des Spoutnik, après les vols de Laika, de Gagarine et de Titov, de John Glenn, Carpenter, Nikolaïev, Chiria et tant d'autres, l'humanité tout entière, incrédule, retenait une dernière fois son souffle. Car ce jour était enfin arrivé. Le 16 juillet 1969, la fusée géante Saturne V s'était arrachée du sol. Tandis que des dizaines de litres de kérosène brûlaient à chaque seconde, tandis que le monstre de métal s'élevait lentement du sol de Cap Kennedy, un million de spectateurs, à quelques kilomètres de là, scandaient debout leur enthousiasme en hurlant d'une même et une seule voix « Go, 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 go !» comme si ces cris avaient pu porter les astronautes encore plus vite, encore plus haut. La fusée Saturne V, un monstre de 110 mètres de haut mis au point par Wernher von Braun et les milliers de techniciens de la NASA. À son sommet, 50 tonnes à mener à bon port, deux vaisseaux accolés et trois hommes. Le vaisseau mère, Columbia, également appelé module de commande, resterait en orbite lunaire. Le second, le LEM, baptisé encore Eagle ou module lunaire, était une petite chaloupe de l'espace. Elle s'échapperait de Columbia pour se poser sur la Lune et revenir. Les trois hommes s'appelaient Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins. Ils avaient tous trois 39 ans et des nerfs d'acier et de nombreux mois d'entraînement. Cette opération, Apollo 2, n'avait pas été conçue au hasard. D'autres missions l'avaient précédée. Si elles étaient couronnées de succès, d'autres missions la suivraient et peu à peu, les hommes apprivoiseraient la Lune. Parmi les trois hommes, l'un d'eux, Michael Collins, devait rester dans le module de commande en orbite. Oui, il allait franchir un million de kilomètres pour voir ses deux camarades atterrir sur la Lune sans pouvoir, lui, y poser le pied. Des milliards d'humains s'apprêtaient à suivre la fabuleuse odyssée. Pendant des jours, certains garderaient l'oreille rivée sur un transistor, d'autres le regard fixé sur un écran de télévision, mais tous, par la pensée, restaient en compagnie des astronautes. Car ces trois-là n'étaient que les derniers maillons d'une longue chaîne, une chaîne qui, au long des temps, avait compté des poètes, des écrivains, des chercheurs, des utopistes, des fous, des pionniers, puis une équipe organisée de savants et de techniciens, une chaîne aboutissant aujourd'hui à ces trois hommes qui, pour la première fois dans l'histoire, allaient accomplir en moins de 9 jours ce voyage qu'on avait si longtemps cru impossible. Le 19 juillet 1969, Apollo 2 se mit enfin en orbite autour de la Lune, et les trois hommes, fascinés, regardaient 111 km plus bas l'astre sur lequel deux d'entre eux prendraient pied. « À bientôt, Michael !» dit Neil Armstrong à Collins. « Si tout va bien, Michael, » ajouta Edwin Aldrin, « nous serons de retour dans 24 heures. »« Vous êtes bien sûr, » demanda Michael Collins, pour plaisanter, « que l'un d'entre vous ne veut pas rester ici, à ma place ?» Quand ses deux compagnons pénétrèrent dans le module lunaire, il était 18h57. Une brève impulsion de moteur et le LEM se séparait du grand module principal. Resté dans Columbia en orbite, Collins suivit très longtemps la course de la petite chaloupe, Puis, il revint s'installer sur son siège et attendit. Écouter la radio de Houston à Cap Kennedy, faire plusieurs fois le tour de la Lune et attendre. Oui, pendant une longue journée, c'était tout ce qu'il aurait à faire. Attendre et dialoguer avec le cosmos. À présent, sur la Terre comme au ciel, la tension monte de seconde en seconde, car l'événement est relaté en direct. Grâce aux transmissions radio et aux caméras installées dans le module lunaire, les hommes de la Terre suivent tout ce que disent les astronautes et les techniciens de la base de Houston. Alors, le LEM descend vers la Lune, s'en approche, la survole, freine avec ses rétrofusées pour ne pas s'y écraser. En principe, il doit se poser dans la mer de la Tranquillité, un lieu qui, d'après les nombreuses photos faites par les missions précédentes, semble sûr, plat, hospitalier. Comme le LEM ne se trouve plus qu'à 1 kilomètre de la surface de la Lune, Houston annonce « Eagle, vous avez l'autorisation d'allumer. » Aldin prend le relais de la Terre en utilisant le pilotage manuel. Armstrong et lui surveillent en même temps les cratères qui défilent sous eux et la jauge de carburant de la table des commandes. Ils n'ont que 2 minutes pour choisir le lieu d'atterrissage. S'ils consomment trop de kérosène, certes, ils se poseront, mais ils ne pourront plus repartir. « Nous descendons à 3 mètres seconde, » dit Aldrin. « 35 degrés, 200 mètres d'altitude. Dégageons un peu sur la droite. » « Nous avons le contact lumière avec le sol, » ajoute Armstrong. « Nous ne sommes plus qu'à 100 mètres. » Les secondes s'écoulent, longues, très longues. À Houston, les milliers de techniciens attendent. Ils n'osent plus intervenir. Seuls les 2 astronautes savent et jugent s'ils doivent, s'ils peuvent se poser. Il leur faut un lieu dégagé. S'ils touchent une aspérité et si Eagle se renverse, personne, non, personne ne pourra venir les aider. Sur la Terre, des millions de téléviseurs retransmettent une image mouvante et floue, l'approche d'Eagle avec le sol lunaire. Soudain, l'image se fige sur un sol clair où se détache une ombre rectiligne. « Houston ?» fit soudain la voix d'Armstrong. « Ici station de la Tranquillité. Eagle a atterri. » À Cap Kennedy, c'est une immense explosion de joie. Et parmi tous les hommes qui suivent l'exploit, ils sont des millions à songer, éblouis. Ils l'ont fait, et cela s'est passé aujourd'hui. Ainsi, j'aurais vécu ce moment auquel tant de générations ont rêvé. Nombreux sont ceux qui, à cet instant, à 21h18, heure de Paris, se précipitent à l'extérieur, dans la nuit. Ils regardent la lune et ils pensent, sans encore oser y croire, « Ils sont là, ils s'y sont posés !»« Bien reçu, » dit la base de Houston, « nous étions blêmes, enfin, nous respirons. » Une autre voix jaillit, celle de Collins, en orbite. « J'ai tout entendu. Parfait, c'est fantastique. » Le plus dur semble à présent accompli. L'exploit mérite un temps de répit, 12 heures pendant lesquelles Armstrong et Aldrin doivent dormir puis vérifier que rien n'a souffert. Mais au bout de 6 heures, examinant le paysage par les hublots du LEM, Armstrong déclare soudain « Houston, nous sommes trop impatients pour attendre 6 nouvelles heures. Nous sommes prêts à sortir. » Houston hésite devant cette modification du programme, puis leur accorde l'autorisation. Fébrile, les astronautes enfilent leurs scaphandres et dépressurisent la cabine. « La gymnastique va commencer, » dit Armstrong. « J'aurais dû me raser hier soir, » dit Aldrin. 111 kilomètres plus haut, Colin s'ajoute en riant. « Ça m'amuse de vous entendre là-bas, les amis. » Collins est moins favorisé que des millions de terriens. Il ne dispose pas de la télévision. Bien que ses compagnons ne soient qu'à quelques kilomètres de lui, il ne pourra suivre leur sortie qu'à la radio. Sur la Lune, un engin étrange est posé. C'est le LEM. Et voici que sa porte s'ouvre. Et voici l'horizon lunaire qui apparaît avec son relief chaotique et gris. « C'est différent de chez nous, » dit Armstrong, « mais ça a l'air joli. » Sur la Terre, Il est une heure quelconque, moins 5 minutes. Oui, en France par exemple, c'est la nuit et il est 3h55 du matin. C'est à cet instant que Neil Armstrong, sur la Lune, commence à descendre les échelons du module Eagle. L'astronaute semble hésiter. Il pose un pied sur le sol, puis un autre, avant de déclarer « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. » Cette phrase, se dit Collins là-haut, tout là-haut, en orbite, Neil a dû longuement y songer. Mais au moment où il la prononce, la même émotion est partagée par tous ceux qui, à 400 000 km de là, comprennent que leur espèce tout entière vient de franchir une grande étape. Une étape semblable à celle qui, voici quelques millions d'années, vit l'invention de l'outil. Le petit pas d'Armstrong, dans la future histoire complète de l'humanité, apparaîtra sans doute plus grand que la découverte de l'Amérique, car dans la nuit du 20 au 21 juillet, l'homme a, pour la première fois, pris pied sur un autre astre. 20 minutes plus tard, Aldrin rejoint son compagnon. Il effectue sans mal un saut d'un petit mètre, s'arrête et s'exclame admiratif. Quel merveilleux paysage de désert. Oui, approuve Armstrong. La surface du sol est fine et poudreuse. Je soulève la poussière du bout du pied. Je n'enfonce que quelques millimètres, mais je laisse des empreintes très nettes. À l'horizon, un immense globe bleuté se lève. C'est la Terre. Les astronautes la contemplent et murmurent, peut-être à l'attention de tous ceux qui y sont restés. Elle est grande, lumineuse et belle. Leurs voix traversent l'espace et font le trait d'union espéré. Cette nuit-là, la Lune devient la vraie petite sœur de la Terre. Les deux hommes ont de nombreuses tâches à accomplir. Inspecter l'Eagle de l'extérieur pour voir s'il n'a pas souffert, installer une caméra de télévision et la pointer sur le module lunaire, fixer au sol un sismomètre et un réflecteur à rayons laser qui mesurera en permanence, et au centimètre près, la distance de la Terre à la Lune. Disposer un film d'aluminium qui capturera les particules de plasma du vent solaire, tous ces appareils resteront ici pendant des années, des siècles, comme resteront imprimées sur le sol les traces des premiers pas des conquérants de la Lune. Jusqu'à ce que la chute des météorites les efface, dans quelques millions d'années. Enfin, après avoir pris des photos, les deux astronautes ramassent 22 kilos de pierre. Puis ils plantent le drapeau américain sur le sol lunaire. Ils y déposent 5 médailles aux effigies des cosmonautes disparus, 5 pionniers qui ont risqué et laissé leur vie pour que d'autres accomplissent aujourd'hui cette odyssée. Une journée s'écoule, la première journée d'une lune habitée. Le président des États-Unis, Richard Nixon, félicite les astronautes par radio. Quelle fierté pour son pays que des Américains soient les premiers sur la Lune! Mais Armstrong répond à son président, « Certes, c'est un grand honneur pour nous d'être ici, mais nous ne représentons pas que les États-Unis. Nous représentons les hommes pacifiques de toutes les nations, tous les hommes curieux et avides de savoir, tous les hommes tendus vers l'avenir. » Là-haut, seul, un peu oublié dans le vaisseau Columbia, Collins approuve en silence. Il sait que leur mission est accomplie. Il ne doute pas que tous trois reviendront sains et saufs sur la Terre. Lui, Collins, lui, l'homme qui n'aura pas marché sur la Lune, s'aperçoit qu'il est en fait le vrai capitaine de cette expédition. Il est resté sur le navire, ce qui lui permet de contempler les deux astres qui poursuivent leur course. Devenu un satellite de notre satellite, il songe, oui, sans doute est-ce là un exploit extraordinaire, mais la Lune n'est que la banlieue de la Terre. Un jour, d'autres que nous débarqueront sur Mars ou Vénus. Dans le ciel noir, piqueté de millions d'étoiles, un point clair se met à grossir. C'est Eagle qui revient, pour s'arrimer à Columbia. Une manœuvre essentielle et délicate. Collins sait que dans quelques années, cette opération deviendra aussi banale que le ravitaillement en vol d'un avion. Au loin, Collins identifie sans mal la rouge planète Mars, le croissant de Vénus, Jupiter la géante. et il songe que toutes ces planètes, jusqu'à la lointaine et invisible Pluton, sont encore les filles du Soleil. Un jour, se met à rêver Collins, les hommes quitteront vraiment le berceau de leur système solaire. Ils iront loin, beaucoup plus loin encore, à la recherche d'un autre soleil, du côté d'Alpha du Centaure ou de 61 du Cygne, là où peut-être d'autres existent, d'autres mondes où la vie a pu naître et se développer. Mais ce jour-là, songe encore Collins, les hommes n'auront accompli qu'une infime partie du chemin, car c'est 100 milliards de soleils que compte notre galaxie. Et si un jour, les humains les avaient tous, oui, vraiment tous, explorés, ils tourneraient alors le regard au-delà de leur voie lactée. Et ils contempleraient alors, éblouis et découragés, l'univers peuplé de milliards d'autres mondes inconnus. Après que Armstrong et Aldrin sont apparus dans l'écoutille, après que les trois astronautes se sont étreints et retrouvés, Michael Collins désigne à ses compagnons le côté obscur de l'espace, et après les avoir félicités, il leur avoue, sans malice, le regard encore ébloui, « Vous n'allez sûrement pas me croire, mais pendant que vous marchiez sur la Lune, j'ai été encore plus loin que vous. » Prochain compte le 27 septembre 2022, pour une nouvelle lune d'automne, la première. Nous découvrirons l'histoire de Viking, la première sonde envoyée sur Mars. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux, à donner 5 belles étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit avec vous le monde de l'imaginaire.